C'est avec beaucoup d'émotion, de crainte, de tremblement, que je remercie Dieu de ce qu'il a mis sur le cœur de Jacques ce matin, pour partager avec nous. Et je crois que l'Esprit de Dieu est présent, très fortement. Vous allez retrouver beaucoup de mots que Jacques a prononcés ce matin. Et quand Jacques a dit qu'il y avait une suite, oui, il y a une suite. J'espère vous la porter maintenant avec crainte, je dois dire, mais avec confiance en Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui prévoit toutes choses, qui donne toutes choses en son temps. Et je veux te prier pour ta parole de ce matin, pour tes paroles qu'on a chantées, qu'on a entendu, qu'on a vécu, pour ta présence au milieu de nous. Et je veux te prier que par les textes que nous allons lire et partager maintenant, tu puisses continuer ce travail, ce chemin au milieu de nous. Seigneur, bénis-nous, garde-nous et ouvre nos cœurs et nos oreilles à ce que tu veux nous dire. Amen. Nous venons de célébrer Pâques. Et nous avons une fois de plus été sensibilisés par le message de la croix la semaine passée. Cette dernière semaine du Christ sur terre, la passion, sa mort, sa résurrection au matin de Pâques. Pourtant, il me semble qu'ensuite, et c'est mon interrogation, nous sommes presque restés sans broncher dans la même situation, dans le même train-train, la même routine, retourner à notre vie quotidienne, point. Une nouvelle semaine a commencé, presque en fait, comme si rien ne s'était passé. Comme si le sacrifice de Jésus n'avait en fait, pratiquement, dans notre vie d'aujourd'hui, rien changé pour nous. Comme si ces souffrances dont nous avons parlé étaient passées au deuxième plan, s'étaient estompées, n'avaient qu'en fait que peu d'influence dans notre vie après ce moment vécu fort de Pâques. Le texte de Hébreux 5 que nous allons lire, quelques versets, trois versets, nous rappelle ce chemin par lequel Jésus-Christ, quoique fils de Dieu, a dû passer et ce qui en découle. Trois versets, Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ce texte nous rappelle la souffrance du Christ, nous dit qu'il a été enseigné par son Père, qu'il a dû obéir en suivant le chemin prévu par Dieu. Il nous est aussi présenté d'abord comme sauveur, mais aussi comme exemple. Nous trouvons donc dans ce texte deux éléments importants pour nous après Pâques, après notre Pâques personnelle. Nous laisser enseigner et obéir. Ou bien, si vous voulez, nous laisser enseigner pour obéir. Ou bien, si vous voulez encore, obéir en nous laissant enseigner. Tournez ça dans tous les sens. Mais vous trouvez les deux choses, et c'est important ces deux choses. C'est aussi ce qui nous est expliqué par Paul dans sa lettre aux Hébreux avec beaucoup plus de détails et de percussions. Au chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, que on connaît bien sûr, j'ai envie de dire tous, l'apôtre nous rappelle les faits des témoins passés comme acte de foi, qui nous semblent extraordinaires. Mais au regard desquels nous avons, nous, à nous interroger sur notre comportement personnel. Ayant vécu bien des années après la Passion, ces personnages d'Hébreux 11 nous sont présentés comme des exemples de foi. Tout comme le Christ, ils ont aussi été enseignés, ils ont obéi et ils ont suivi le chemin, le plan comme on l'a entendu, le plan que Dieu avait pour chacun de nous. On nous parle dans Hébreux 11 d'une vingtaine d'exemples d'hommes, de femmes, de groupes qui nous sont cités les uns après les autres et on nous dit ainsi chaque fois, c'est par la foi qu'ils ont fait ceci ou cela, des choses qui nous paraissent incroyables, extraordinaires, mais qui sont pour eux des choses de tous les jours. Et c'est ce qui les caractérise, leur foi, qui n'est autre qu'une confiance entière dans les promesses de vie, dans le plan de Dieu pour eux. Ah, il s'agit d'hommes célèbres, comme Moïse, comme Abraham, des sacrées pointures, hein, ou comme Jacob, ce sont nos pères dans la foi. Il s'agit aussi de femmes qui n'avaient pas une vie toute simple. Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Rahab, qui était prostituée. Il s'agit de groupes de personnes, de tout un peuple que Dieu s'était choisi. Par la foi nous est-il dit. Par la foi, ils ont fait ceci ou vécu cela. Mais comment ? Quelle était cette foi ? Et que nous dit-elle pour nous aujourd'hui ? Le verset 5 du chapitre 11 d'Hébreux nous dit d'abord que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez envie d'être agréable à Dieu, mais vous savez ce qu'il faut faire. Sans la foi, il est impossible de toute façon. Donc, il faut déjà avoir la foi. Mais nous avons un début de réponse plus précis au verset 26, où il nous est dit au sujet de Moïse la chose suivante. Subir le mépris et les outrages comme le Messie à venir, Moïse était bien longtemps avant, c'est le texte qui dit comme le Messie à venir, hein, lui paraissait un bien plus précieux que tous les trésors de l'Égypte. Et on sait les trésors qu'il y avait en Égypte. Le texte continue, pourquoi ? Parce qu'il avait les yeux fixés au loin sur la rétribution finale. Voilà la première indication. Avoir les yeux fixés sur la rétribution finale, sur les promesses de Dieu, sur le retour du Christ et sur la vie éternelle. C'est-à-dire voir plus loin que juste devant nous, que notre demain à nous. C'est avant tout le message que Pâques nous adresse, une fois ces fardeaux posés à la croix, voir plus loin, voir devant, avec les yeux de Dieu. Un journal chrétien bien connu a pour titre « Croire et servir ». Un autre journal bien connu a pour titre « Servir en l'attendant ». Ça se ressemble un petit peu. J'aime ces titres parce qu'ils résument la foi. Croire et servir. Pas simplement croire. Ouais, je crois. Combien de personnes disent qu'ils croient qu'il y a un Dieu ? Qu'est-ce que ça change dans leur vie ? Souvent pas grand-chose. Servir en l'attendant. C'est-à-dire, après avoir cru, se mettre au service, après avoir vécu ce sacrifice, se l'accaparer et agir en conséquence dans notre vie, au service de Dieu. Mais cet engagement de foi ne se fait pas n'importe comment, et bien souvent, pas du tout comme nous l'imaginons, nous, mais comme Dieu l'a imaginé. Et comme Dieu l'a proposé à ces hommes de Hébreux 11 et à son Fils, avec obéissance et enseignement, avec enseignement ou obéissance. Croisez-les si vous voulez. Croire et servir, pour nous, aujourd'hui, comment cela se manifeste-t-il ? Peut-être plutôt comment cela devrait se manifester. C'est bien entendu l'honorer, et c'est ce qu'on a fait ce matin, le louer, l'honorer comme des fils, c'est-à-dire en suivant l'exemple du Christ, son exemple, celui qu'il nous a donné. Lui rendre à lui toute la gloire et lui faire parvenir notre louange, notre gratitude pour la grâce qui nous a été faite d'être considérés comme ses enfants, ses fils adoptifs, ses héritiers. Et puis, le deuxième point, servir, c'est se mettre en route, c'est mettre en route notre foi pour lui obéir. Dans le chapitre 12, donc, qui suit le chapitre 11 de Romains, des Hébreux, dans le chapitre 12 de la lettre de Paul aux Hébreux, nous découvrons que Dieu nous connaît vraiment. Il nous met un petit peu à notre place, il nous remet à notre place et nous invite non seulement à nous interroger sur nos comportements, mais surtout à y réfléchir et à prendre les décisions justes pour notre vie de demain, dans le domaine bien précis de notre formation, pour nous laisser enseigner et corriger par lui. On lit les 11 premiers versets du chapitre 12 d'Hébreux. J'ai choisi volontairement une version qui n'est pas la version seconde ou les versions traditionnelles, je vous dirai pourquoi après. Ainsi donc, verset 1 de Hébreux 12, « Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui sait bien nous entourer. » C'est ce qu'on a fait dimanche passé ici, en collant tous ces papiers sur la croix. « Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, ce qu'il y a demain. » Après-demain, les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement, Jésus, lui qui, renonçant à la joie qui lui revenait, endura la croix au mépris de la honte et s'est assis à droite de Dieu. Oui, pensez à celui qui a enduré de sa part, de la part des pécheurs, une telle opposition contre lui, afin de ne pas vous laisser accaparer par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tout fils qu'il accueille. C'est pour votre éducation que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est en effet le fils ? Que son père ne corrige pas. Si vous êtes privé de la correction dont tous ont leur part, alors vous êtes des bâtards et pas des fils. Nous avons eu nos pères terrestres pour éducateurs et nous nous en sommes bien trouvés. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits et recevoir de lui la vie ? Eux, en effet, nos pères terrestres, c'était pour un temps, selon leurs impressions, qu'il nous corrigeait. Lui, Dieu, pour notre profit, en vue de nous communiquer sa sainteté. Toute correction sur le moment ne semble pas un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle produit chez ceux qu'elle a ainsi exercés les fruits de paix et de justice. Ce texte est intéressant et actuel pour nous, pour plusieurs raisons sur lesquelles j'aimerais que nous nous arrêtions quelques instants ensemble ce matin. L'apôtre relit ce chapitre avec les prescriptions, les descriptions des hommes de foi dont nous avons précédemment parlé, avec ces quelques mots. Ainsi donc, nous aussi qui avons été entourés d'une telle nuée de témoins. C'est donc bien à nous, aux lecteurs, qu'il s'adresse. Au lecteur de sa lettre, bien sûr, mais aussi de tous les temps dans le plan de Dieu, dans le plan de la révélation de Dieu. Il nous rappelle ici que nous devons d'abord nous souvenir de ce qu'a été la vie de Christ et de ce qu'a été la vie de ces hommes de foi. Nous souvenir non seulement de leur foi, mais de leur obéissance et de ce qu'ils ont été enseignés et formés par Dieu et par la foi qu'ils avaient en lui. Ces témoignages nous rappellent aussi que Dieu peut tout en nous, que Dieu peut tout en nous et que nous pouvons tout par lui et en lui. En Dieu, on peut tout en Dieu. En Dieu, ça veut dire en se laissant modeler, en se laissant enseigner, en se laissant façonner par lui. Que Dieu peut tout en nous, dans la mesure où nous acceptons justement de se laisser former, enseigner, guider par lui. Ce texte que nous venons de lire nous remémore au verset 3 ce que le Christ a souffert à Pâques. Comment il aurait préféré que son Père lui évite ce passage difficile, mais comment il l'a aussi finalement accepté en obéissant, en ayant les yeux fixés plus loin sur le plan proposé, sur ce plan de salut qui n'était même pas que pour lui, qui était pour nous, pour les autres, pour tous ceux que Christ allait attirer à lui et pour tous ceux que les témoins successifs dans le temps de Christ allaient aussi amener à se tourner vers la grâce de Dieu, c'est-à-dire nous, nous-mêmes. Et notre texte se poursuit en nous interpellant personnellement, nous qui n'avons en tout cas pas souffert comme lui, et qui nous plaignons souvent, et qui oublions en fait le béaba de la foi. L'apôtre nous rappelle clairement, vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils, laquelle, nous dit l'apôtre, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Ce matin, nous avons chanté, je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Combien de fois on se plaint plutôt ? Et combien de fois dans nos prières, on ne fait que se plaindre ? Au lieu de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous fait et pour le plan qu'il a mis devant nous. Se laisser enseigner, former, forger, reprendre. Dans ce verset, les mots traditionnels, c'est pour ça que j'ai repris une autre traduction. Le mot traditionnel, c'est le mot châtier. Un mot qu'on n'aime pas. Mais ce mot châtier, en grec, est traduit par nos mots actuels de correction, ici. Et les termes qui en découlent dans nos mots de tous les jours, c'est entraînement, éducation, pédagogie. C'est autre chose que de voir que le mot châtiment. C'est ce mot-là, c'est le mot châtier. Donc c'est important de le voir aussi sous un autre jour. Il y a des traductions très littérales, mais si vous cherchez dans la traduction de Darby, qui est une traduction très proche du texte, qui est difficile à comprendre parce qu'elle n'est pas dans notre langue, vous savez ce qu'il est dit ? Se laisser discipliner par Dieu. La traduction Darby. Se laisser discipliner. Entrer dans la discipline de Dieu. Alors discipline, ça nous fait peur, mais quand on a un emploi du temps à l'école, au collège, on nous donne les disciplines qu'on aura. C'est simplement une organisation. Simplement se laisser enseigner, les enseignements qu'on aura. Et là, on a le mot discipline. Il s'agit ici donc d'un véritable enseignement qui nous est proposé et pas d'une punition. Ce n'est pas une punition de devoir suivre Dieu. Mais se laisser enseigner par lui, c'est une bénédiction. Pas un Dieu qui ne ferait que punir, non, mais un Dieu qui éduque. Et cette éducation de Dieu, elle est nécessaire pour notre vie de foi. Nous devons apprendre de lui, nous laisser enseigner, façonner, diriger, éduquer, tout comme les enfants sont éduqués par les parents. Combien y a de parents ici qui éduquent leurs enfants ? De la même façon, Dieu veut nous éduquer dans notre vie avec lui. Notre texte nous dit clairement que c'est en tant que fils adoptif que Dieu souhaite nous donner cette éducation qui nous fait défaut. Ça n'est pas une éducation terrestre qui veut nous donner, une éducation divine comme ses fils. Et Paul nous rappelle ici, vous avez entendu ce mot, que si Dieu ne nous éduquait pas et ne nous reprenait pas, nous pourrions tout à fait imaginer et nous aurions le droit de penser que nous ne sommes pas ses fils et que nous serions des bâtards. C'est le mot qui est employé ici. Le fait que Dieu veut nous éduquer et nous enseigner nous permet d'être sûrs que nous sommes ses enfants. Est-ce que nous nous rendons compte de la grâce qui nous est faite ici par Dieu après avoir posé à Pâques nos fardeaux sur la croix, de nous laisser enseigner par lui. Alors peut-être ça, nous le savons déjà, Bien sûr. Mais est-ce que nous le vivons réellement? Comment recevoir de lui cet enseignement si nous n'avons que le minimum de contact avec lui? Si nous n'avons, par exemple, des contacts avec lui qu'une fois le dimanche matin? Question que je me pose à moi, mais que je vous pose à vous aussi. Ça ne peut en tout cas être suffisant pour recevoir ces enseignements. Il faut être en contact avec Dieu tous les jours, à tous les instants de nos vies, de nos actes, de nos pensées. C'est-à-dire, de notre part, nous avons la responsabilité de rechercher continuellement ce contact avec Dieu. Alors peut-être est-il temps de se remettre en question devant lui pour établir ou rétablir ce contact. Et les moyens sont multiples, mais ils nous appartiennent ici. D'abord, écouter Dieu nous parler. Écouter Dieu nous parler. Prendre ce temps. Cela demande un temps d'écoute et de prière, mais il faut prendre ce temps. Et c'est à nous de le prendre. Travail personnel, bien sûr. Intime avec Dieu. Seul, en face à face, indispensable, mais aussi important en groupe, dans les cellules, dans les réunions de prière, où il est primordial de pouvoir partager ensemble ces temps forts. Et puis, pour trouver les enseignements, les directives, les pistes, il faut prendre le temps de lire, prendre le temps de méditer sa parole. Où là nous trouverons les repères pour notre chemin de demain? Encore une fois, un travail bien entendu personnel, chez soi, ou en couple, ou en famille. Mais combien aussi important de le faire en commun avec les frères et sœurs de l'Église ou d'autres, dans les temps préparés, adaptés spécialement pour cela. Les moments vécus ces derniers mois, malheureusement seulement à quelques-uns, autour du livre « Connaître Dieu », étaient des temps bénis, qui avait été mis en place par Dieu, tellement riche, tellement riche. Chaque fois, chaque participant en est ressorti avec un cœur rempli de joie, léger, terriblement léger, de la joie d'avoir justement reçu de Dieu un enseignement, un détail, des corrections pour remarcher juste dans le bon chemin. Même si chacun peut-être avait dû se faire un peu violence pour venir. La communion entre frères et sœurs, la vie de foi au sein de la communauté sont à ce prix. Et cela nous coûte quasi rien, quasi rien. En ne recherchant pas ces moments, nous tendons à nous couper de Dieu, à fermer l'entrée de notre cœur à Dieu. J'ai trouvé dans une lecture cette semaine une image, je n'avais pas porté beaucoup d'attention à ça, dans les récits de l'après-Pâques, justement, deux fois les disciples se retrouvent entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux fois? Un acte physique. Ils ont tiré les verrous parce qu'ils avaient peur. Combien de fois est-ce que... Alors, ils avaient une raison très précise, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils ont fermé les portes à clé. Ça n'a pas empêché Dieu d'entrer par Jésus, qui s'est présenté au milieu d'eux les deux fois. Mais nous, est-ce que nous tirons pas des verrous, nous aussi, de notre cœur, et est-ce que nous ne nous enfermons pas dans notre liberté de nous approcher de Dieu? Les portes étaient fermées, le Christ est arrivé et leur a parlé. Ça ne les a même pas étonnés. Ça ne les a même pas étonnés, pourtant les verrous étaient fermés. Nous ne pouvons pas nous couper de Dieu et de son enseignement. Et nous avons à nous retrousser les manches pour nous-mêmes, parce que c'est à nous que ça importe. Dieu, par Paul, appuie ici à l'endroit où ça nous fait mal chez nous. Il nous dit en quelque sorte, individuellement, à chacun, dans ta vie, de fils ou de fille, que j'ai adopté par le sacrifice de mon Fils, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, bien sûr. quelles sont tes priorités ? Quelles sont tes priorités ? Plutôt, quelle est ta priorité ? Dieu n'en laisse pas plusieurs de priorités. Quelle est ta priorité ? Est-ce ta vie terrestre ? C'est-à-dire, on en a parlé ce matin, ton boulot, tes activités, ton quotidien, tes loisirs, et puis ton petit culte du dimanche matin. Ah ok, c'est ton choix, surtout change rien, mais ce n'est pas ce que j'ai prévu pour mes fils et mes filles. Ils ont besoin d'autre chose, ils méritent autre chose. Le verrou que tu as tiré t'empêche de sortir et ne te permet pas de jouir des promesses que j'ai pour toi dans ma famille et de me connaître vraiment. Ou alors, est-ce que, en tant que croyant, tu as compris la vision, tu as vu à long terme, à plus long terme, les promesses, ce qui nous est appelé ici la rétribution finale, c'est-à-dire ce que tu auras au fond du compte, ton héritage, le salut, le retour du Christ, la vie éternelle. Dans ce cas, prends le temps de te laisser enseigner, façonner, modeler, de partager activement la vraie communion, de vivre vraiment la foi en moi avec tes frères et sœurs. Prends ce temps. Ce choix est un enjeu de taille immense. Il y va de notre vie d'aujourd'hui bien sûr, mais aussi de notre vie d'après la vie sur terre. C'est un choix important. Alors peut-être vous paraît-il compliqué, mais il est pourtant tout simple. Il est tout simple. Relisez les chapitres 11 et 12 de Paul aux Hébreux et posez-vous simplement, mais honnêtement, c'est un exercice d'honnêteté, la question. Posez-vous cette question. Sur mes raisons, ma raison, de ne pas rejoindre les frères et sœurs dans les différentes activités de l'Église, activités de réflexion, de prière, de travail collectif, les activités aussi de partage, d'activités ludiques ou d'agape, combien ne sont pas des excuses ou des prétextes ? Et combien tiennent aux yeux de Dieu ? Faites un pourcentage. Faites l'exercice, c'est vraiment intéressant. Dieu veut notre bien et veut nous aider et nous encourage à prendre pour lui ses temps. C'est-à-dire à faire ce choix. Je prends d'abord ce temps pour lui. J'ai plein de possibilités ce soir. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, c'est un choix. C'est le vôtre, c'est pas le mien. Enfin, c'est le mien aussi, pour moi. Le texte nous dit, notre texte, que ce n'est pas agréable de se sentir repris. Personne, hein ? Personne n'aime. Mais que nous nous rendons vite compte que finalement, c'est une bénédiction. Et je voulais vous laisser deux pistes d'encouragement. Parce que c'est vraiment un encouragement que Dieu nous amène ce matin. Deux pistes d'encouragement. Une qui est la suite de notre texte. Il nous est dit au verset 12 à 15 du chapitre 12 de notre texte, cet encouragement à jouir pleinement dès aujourd'hui de la grâce de Dieu. Redressez donc les mains défaillantes et les genoux chancelants. Et pour vos pieds, faites des pistes droites afin que le boiteux ne s'estropie pas, mais plutôt qu'il guérisse. C'est encourageant. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se soustrait à la grâce de Dieu. Alors Raymond, il aimerait qu'on lise toute la fin du chapitre, mais vous la lirez chez vous. On ne lit pas toute la fin du chapitre. Voilà, ça c'est des encouragements. Et puis, encore des encouragements, un encouragement pour le matin. Je vous invite à ouvrir vos yeux le matin. Ça, vous le faites sûrement en remerciant. Oui, ben vous le faites sûrement, mais d'une façon spéciale. En remerciant Dieu de ce que c'est un jour qui s'ouvre pour vous. Et puis, un petit exercice. Vous prenez dans le dernier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Les cinq ou six derniers versets, il y a les armes que Dieu nous propose, les habits que Dieu nous propose d'endosser. Vous allez vous habiller le matin, sortir le pyjama, l'aérer, et mettre des habits neufs, propres, vos habits pour la journée. Vous regardez dans Éphésiens 5, à la fin d'Éphésiens, je ne sais plus si c'est 5, mais ça ne fait rien, le dernier chapitre, c'est juste la fin. 6 ? C'est 6 ? Merci. Bah, tu veux nous le lire ? Tout fort ? Vas-y. Tu vois ce que c'est ? C'est les armes, ce qu'on appelle les armes du chrétien. Alors, je le prends, si tu l'as. Oui, juste la fin. Voilà, pas 13, excuse-moi. Voilà, voilà, voilà comment le matin, pour se préparer, on peut réfléchir de s'habiller. Vas-y, très fort.
C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les...
Le matin, faites ce petit exercice, le matin, en vous levant, vous verrez, c'est génial. C'est génial. Moi, je ne sais jamais comment assortir mes habits. Ma femme me dit toujours, tu ne sais pas t'habiller. Mais là, bon, je ne vais pas m'habiller comme ça, vraiment. Peut-être je ferai peur. Mais voilà, c'est un bon exercice qui nous encourage à nous préparer pour la journée avec Dieu. Voilà, j'invite Philippe et Pierre. On voudrait partager ce repas auquel Dieu nous invite dans cette optique-là, de servir en l'attendant, c'est-à-dire annoncer son retour, mais nous engager avec lui et vivre avec lui vraiment en prenant tous les jours.
Alors, je partage avec vous les annonces. Tout d'abord, concernant le programme de la semaine. Alors, demain, le conseil se retrouve à 19h30 avec la commission entraide et relations d'aide. Mardi, il y a tout d'abord l'étude biblique des aînés à 14h30 et les cellules à 20h30. Alors, pour les cellules, chez Mathieu et Anne-Laure, voilà, une première. Pour la cellule de Gex, ce sera chez nous. Pour la cellule de Prefsin, je n'ai pas eu d'informations. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant, non. Ce sont les vacances. Ben, peut-être ceux de la cellule de Prefsin, vous téléphonez chez Philippe. Et puis, vous verrez. Samedi prochain, explosion de louanges qui aura lieu donc à l'église adventiste de Mury à 17h. Un groupe de jeunes à 20h. Dimanche prochain, on commence par le thé café à 9h30, suivi du culte à 10h30. Je vous rappelle notre séminaire qui aura lieu les 9 et 10 mai, donc le samedi en fin de journée, et puis le dimanche, sur évangélisation et liberté d'expression. Sinon, on peut penser à Didier, qui va rentrer demain à l'hôpital pour des examens, juste pour la journée, mais c'est important de penser à Didier, le soutenir aussi dans nos prières. C'est pas forcément évident de retourner faire des examens. C'est vrai qu'on pense à toi, Didier, on te remet vraiment dans nos prières. Pensons aussi à Guylaine et Jacques qui sont repartis pour une cure à Aix-les-Bains pour 3 semaines. Sinon, comme chaque semaine, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution. Voilà. Alors, c'est le pays qui est le numéro 20, 25. C'est l'ancienne Birmanie. Alors. Voilà, c'est donc à droite de l'Inde, au sud-ouest de la Chine. Dans ce pays, il y a un petit peu plus de 50 millions d'habitants et un peu plus de 4 millions de chrétiens. Il y a donc une proportion de chrétiens non négligeable. Les 4/5 de ces chrétiens sont protestants, ce qui est aussi peu courant dans les pays dans lesquels il y a de la persécution. C'est un pays dans lequel il y a beaucoup de bouddhisme. C'est un pays, qui recule dans l'index mondial de persécution. Donc c'est un pays dans lequel il y a de plus en plus d'ouverture pour les différences et les modes de pensée différents. Mais cette évolution est très lente. Le gouvernement a peu de marge de manœuvre, il cherche à mettre en place plus de liberté, mais il n'est pas seul comme élément fort dans le pays. Donc c'est important de continuer à prier pour nos frères et sœurs chrétiens dans ce pays. C'est important de les soutenir, malgré le fait que ce soit un pays dans lequel, au niveau de la persécution, il y a plutôt un recul. Mais ils ont encore, et je pense pendant encore quelques années, bien besoin de nos prières.
Le nom actuel du pays, c'est Myanmar.
Voilà, c'est ça, Myanmar. J'ai paumé mon original de mes notes, je suis désolé, j'ai qu'une partie. Et c'est vrai que c'est un pays qui a changé de nom il y a quelques années. Et voilà, ça fait partie aussi des changements qui se passent dans ce pays, comme quoi il y a aussi des changements réels dans certains pays.
Tu as envoyé ton fils et c'est pour nos maladies qu'il est venu aussi sur la terre. Et nous voulons prendre à témoin cette parole et la réaliser de façon complète. On voit, c'est vrai, le corps meurtri, la peine aussi sur Didier. Mais on veut te prier surtout que tu relèves maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous invoquons simplement ton œuvre à la croix. Nous avons rappelé l'importance de ce sang. Et nous voulons te prier vraiment maintenant que tu rétablisses les choses dans le bon ordre. Seigneur, nous voulons te prier pour une guérison aussi, pour un mieux de ta part dans le corps de Didier. Veuille vraiment bénir ces cellules, veuille bénir tout ce qui est contre toutes ces mauvaises cellules qui l'affectent. Merci vraiment, notre Dieu, de pouvoir, c'est vrai, élever nos yeux vers toi, nous l'avons rappelé encore ce matin, compter sur toi, élever notre âme. Tu nous permets par la foi de voir autre chose que notre propre vie. Et nous voulons vraiment proclamer ta victoire là, en bénissant vraiment particulièrement ce matin notre frère Didier. Et veuille accompagner, bénir aussi Loredan dans cette confiance en toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus.
On a parlé à plusieurs reprises de l'espérance future. Eh bien moi je vous invite à vous lever pour vous lire quelques versets tout à la fin de la Bible, Apocalypse 22. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen.